At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme en français sur SBS Audio ce jeudi 22 août. Pour vous accompagner, Bertrand Tungandamé et Jean-Noël Ducasse. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de la photographe Martine Perret pour parler de la deuxième saison de la série The Great Australian Walks qui débute ce soir sur la télé SBS. Nous ferons également un détour du côté de Chicago sur la route de la campagne électorale en musique. Et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec Nicolas Perpich pour l'actualité économique en Australie. Place à présent à l'actualité de ce jeudi qui sera suivie par le magazine des sports de Jean-Noël Ducasse. Au sommaire de cette édition, l'Australie va fabriquer des missiles de frappe de longue portée avec l'ouverture d'une usine d'armement à Newcastle. En France, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal propose de geler le budget pour 2025 et se positionne pour la présidence du parti présidentiel. Et l'Union européenne veut augmenter ses taxes sur les voitures électriques fabriquées en Chine. L'Australie va construire des missiles de frappe longue portée dans une nouvelle usine à Newcastle. Le gouvernement annonce qu'il va contribuer à hauteur de 850 millions de dollars à ce projet en partenariat avec l'entreprise Kongsberg Defence Australia. Le projet implique la construction d'une usine qui va fabriquer et entretenir les missiles navals et des missiles de frappe longue portée. Ce projet devrait générer plus de 500 emplois pendant la phase de construction et générer près de 100 millions de dollars en avantages économiques pour la région. Le ministre de la Défense, Pat Conroy, déclare que cela aidera également l'Australie à accroître son autonomie.
Manufacturing of these missiles represents our investment in Australia's advanced high-tech manufacturing industry in line with the government's Made in Australia agenda. This is only the second factory in the world outside a Norwegian factory that will build joint strike missiles and naval strike missiles. The factory will be in the Newcastle Airport precinct. Once operational, the factory will employ approximately 100 people in very high-skill, high-tech work.
Les locataires aborigènes des logements sociaux dans les régions reculées d'Australie occidentale ont lancé un recours collectif contre les autorités de l'État. Des milliers de personnes font partie de ce recours collectif qui accuse l'Office du logement de l'État d'Australie occidentale d'avoir profité des locataires autochtones en leur facturant des loyers élevés pour des propriétés de mauvaise qualité. La plainte affirme que l'État et l'Office du logement n'ont pas entretenu, réparé et amélioré leurs propriétés ni fourni de logements sûrs, confortables et sécurisés. Le demandeur principal et les membres du groupe réclament une compensation financière ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour rectifier les défauts et problèmes des logements. La chef de la communauté des Bayoulou, Vivienne Cordon, déclare que la situation a été frustrante.
Yes, we are paying rent in our communities, and I think with anywhere, if you are paying rent, then you have the right to get everything fixed in your property. We want to make sure that families have got everything working in the property, especially with the plumbing issues, issues where we still don't have hot water in some of the houses. We want to make sure our elders are looked after and that they're living in their properties at a good standard.
En France, avec beaucoup de retard sur le calendrier habituel, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal a transmis mardi 20 août les lettres plafond indiquant au ministère leur crédit de dépenses pour l'année 2025. Gabriel Attal propose le même crédit que l'an dernier, 492 milliards d'euros de dépenses, ce qui équivaut à 10 milliards d'économies au vu de l'inflation. Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas encore nommé un ou une nouvelle première ministre, plusieurs responsables de gauche dénoncent l'envoi de ces lettres plafond. Le camp présidentiel défend, lui, une simple base de travail avant le débat budgétaire au Parlement. Et si Emmanuel Macron est toujours à la recherche d'un premier ministre, les macronistes, eux, se cherchent un chef. L'ancienne première ministre, Elisabeth Borne, s'est déclarée candidate pour la présidence du parti Renaissance, un rôle que pourrait aussi convoiter Gabriel Attal, qui est déjà président du groupe à l'Assemblée nationale. Valérie Gasse, RFI.
Premier ministre démissionnaire depuis le 16 juillet, Gabriel Attal finit sa mission à Matignon en se chargeant de gérer les affaires courantes avec application. Entre les JO, où il s'est affiché comme un ardent supporter des athlètes français, et la préparation du budget en envoyant les lettres plafond au ministère, il a continué à jouer les bons élèves, sa marque de fabrique, pour ne surtout pas être pris en défaut de responsabilité, alors qu'Emmanuel Macron, avec lequel ses relations sont glaciales depuis la dissolution, tarde à choisir le nouveau local. De Matignon. Gabriel Attal assure la transition et prépare la suite. Il s'est fait élire chef des députés Renaissance à l'Assemblée, un poste stratégique convoité par son rival Gérald Darmanin. Lui qui s'était fait connaître des Français comme ministre de l'Éducation nationale en interdisant l'abaya à l'école, n'a pas eu le temps en 7 mois d'imprimer réellement sa marque à Matignon. Il a surtout su endosser les habits de chef de campagne aux européennes et aux législatives. Gabriel Attal doit maintenant se construire un programme et une écurie pour tourner la page Macron.
Le plus grand projet d'énergie renouvelable jamais réalisé en Australie a obtenu l'approbation environnementale du gouvernement fédéral. Le projet Sun Cable Australia Asia Power Link comprendra une ferme solaire de 4 gigawatts, une ligne de transmission de 800 km et un câble sous-marin. La ferme solaire de 12 000 hectares a le potentiel d'alimenter 3 millions de foyers, mais comme l'explique Justine Fontaine, une partie de cette énergie sera exportée à Singapour.
Pas de quoi égaler les gigantesques centrales solaires chinoises ou indiennes déjà annoncées, mais le projet Sun Cable s'étalera tout de même sur une surface plus grande que la ville de Paris tout entière, dans une région très peu peuplée du nord de l'Australie. Des panneaux solaires et des batteries qui pourront approvisionner en électricité l'équivalent de 3 millions de foyers. L'énergie sera destinée principalement au nord du pays donc, mais aussi à Singapour via un câble sous-marin de plusieurs milliers de kilomètres. La cité-état cherche à s'affranchir du gaz. Et avec ce projet, près de 15% de son électricité tout de même viendrait d'Australie. Canberra, pour sa part, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Elle doit donc multiplier les investissements dans les énergies renouvelables, alors que son économie repose encore en bonne partie sur le charbon, très polluant. 45% de son électricité vient de ce minerai, dont elle est aussi le premier exportateur mondial.
Et plus de 100 avocats et juristes appellent l'Australie à revoir ses liens économiques avec Israël. Ils font référence à une récente décision de la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Dans une lettre ouverte, ils exhortent le gouvernement australien à imposer un embargo sur les armes et l'énergie, mais aussi à suspendre les investissements et les liens commerciaux qui pourraient favoriser les pratiques illégales d'Israël. Les signataires soutiennent que cette démarche permettrait à l'Australie de se conformer à ses obligations juridiques internationales. Le gouvernement israélien a de son côté rejeté la décision de la CIJ, la qualifiant de partiale. Et le personnel hospitalier à Gaza affirme qu'au moins 17 personnes ont été tuées dans des frappes des chars et des drones israéliens dans le centre et le sud de l'enclave palestinienne. Le bilan des morts a été confirmé par des journalistes de l'Associated Press qui ont compté les corps. Pendant ce temps, le Hezbollah a lancé plus de 50 roquettes touchant plusieurs maisons dans les hauteurs du Golan annexé par Israël. Le Hezbollah a déclaré que ces attaques étaient une réponse à une frappe israélienne en profondeur au Liban dans la nuit de mardi. Et aux États-Unis, au moins 55 manifestants ont été arrêtés devant le consulat israélien à Chicago lors de la deuxième nuit de la Convention nationale démocrate. Le chef de la police de Chicago, Larry Snelling, déclare que son département a tenté de désamorcer la situation, mais n'a pas réussi à prévenir les affrontements.
We declared a mass arrest after our officers were physically confronted and attacked. We were not the initiators of violence. But we responded to it. And our officers responded exactly the way that they were trained to respond.
Le groupe de manifestants pro-palestiniens exprimait son opposition au soutien continu de Washington à Israël dans sa guerre contre Gaza. Et la campagne électorale américaine est aussi très suivie au Proche-Orient où l'administration Biden tente toujours d'arracher un cessez-le-feu à Gaza sans pour autant renoncer à soutenir et armer Israël. Ce qui suscite des critiques au sein de l'électorat progressiste américain. Écoutez ce qu'en pense Ahmad Mouna, un habitant de Jérusalem-Est, une partie du territoire palestinien occupé et annexé par Israël. Ahmad Mouna est au micro de Nicolas Falaise de RFI.
En tant que Palestinien, j'ai appris tout au long de ma vie que nous ne devions compter sur personne. Beaucoup de pays, surtout occidentaux, ont laissé tomber les Palestiniens encore et encore. Le Parti démocrate américain ne va pas sauver la Palestine. Il ne va pas libérer la Palestine. Il ne va pas mettre un terme à l'occupation. Il ne va pas faire sortir les détenus palestiniens des prisons israéliennes. Jamais. Le soutien à l'État d'Israël et à sa sécurité est un engagement de la politique étrangère des États-Unis. Ce que nous pouvons espérer peut-être, c'est une légère inflexion de leur attitude envers Israël, une légère inflexion de ce soutien inconditionnel. Ce que nous pouvons espérer, c'est une sorte de restriction dans le type d'armes que les États-Unis vendent à Israël, une limitation de ces armes qu'Israël a achetées aux États-Unis et qui ont été utilisées en violation des lois de la guerre pour commettre des crimes contre l'humanité.
L'Union européenne prévoit de taxer les importations des voitures électriques chinoises jusqu'à 36% pendant 5 ans. Ces droits de douane, qui s'ajoutent aux taxes de 10% déjà appliquées aux véhicules fabriqués en Chine, pourraient entrer en vigueur d'ici à la fin d'octobre. Pékin proteste et prévoit des contre-mesures en lançant notamment une enquête anti-dumping sur certaines exportations européennes. Claire Brodrest, RFI.
Cette enquête annoncée par le ministère chinois du Commerce vise des produits tels que le fromage frais ou le fromage fondu ainsi que le lait concentré et elle pourrait durer un an. Il s'agit là de déterminer si ces produits laitiers européens ont bénéficié de subventions qui nuisent aux producteurs chinois, ce qui pourrait déboucher sur des contre-mesures si le gouvernement chinois trouve des preuves de pratiques déloyales. Cette décision est considérée comme une réponse directe aux mesures prises par l'Union européenne à l'encontre des véhicules électriques chinois et marque une escalade significative dans les tensions commerciales entre les deux géants économiques. Une guerre commerciale pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans les secteurs fortement tributaires du commerce international tels que l'automobile et l'agriculture. Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les fabricants et les consommateurs, avec des pénuries potentielles de marchandises ou des prix plus élevés en raison des droits de douane. Si la situation s'aggrave, l'Organisation mondiale du commerce pourrait être impliquée dans des procédures de règlement des différends, ce qui peut potentiellement prendre des années à régler.
Et retour en Australie, où l'autorité australienne des surveillances financières déclare qu'elle sévit contre la façon dont les compagnies d'assurance réagissent au changement climatique, les inondations étant désormais l'urgence la plus chère à assurer. Environ 1,2 million de propriétés sont exposées à divers niveaux de risque d'inondation et la semaine dernière, le Conseil des assurances d'Australie a publié les données montrant que les assureurs avaient versé plus de 2 milliards de dollars en indemnisation liées aux conditions météorologiques extrêmes au cours du dernier exercice financier. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ASIC, s'est engagée à prendre des mesures contre les entreprises qui agissent de manière inappropriée dans la vente de produits et le traitement des réclamations et dans sa ligne de mire, les polices d'assurance nuisibles, en particulier des produits d'assurance vie inadaptés. Et pour conclure l'actualité, une page météo. Adélaïde, averse en diminution, 18 degrés. Melbourne, une ou deux averses en diminution, 17 degrés. Hobart, une ou deux averses également et 16 degrés. Canberra, possibilité d'averse, c'est 17 degrés. Wollongong, temps nuageux, 20 degrés. Sydney, également nuageux et 22 degrés. Temps partiellement couvert à Newcastle avec un maximum de 23 degrés et il fait un temps principalement ensoleillé à Brisbane avec un maximum de 27 degrés. 15, partiellement nuageux, 28 degrés. Et à Darwin, temps principalement ensoleillé et 34 degrés. C'est tout pour l'actualité de ce jeudi 22 août. Nous marquons une courte pause et puis nous retrouvons Jean-Noël Ducasse pour le magazine des sports.
Français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Bientôt, vous verrez peut-être moins d'actualité dans vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux en Australie. C'est donc le moment de télécharger l'application SBS Audio. Assurez-vous de recevoir toutes nos informations, points de vue et histoires dans notre podcast SBS Language pour rester connecté aux sujets qui vous tiennent à cœur. L'application SBS Audio est gratuite sur l'App Store et Google Play.
Le journal des sports de ce jeudi, avec tout d'abord la Vuelta. Hier en Espagne, la cinquième étape Fuente del Maestre à Séville, remportée par Pavel Bittner. L'Australie étudie la possibilité d'exclure le triple médaillé olympique Matthew Richardson de la compétition pendant 2 ans, suite à sa défection surprise en Grande-Bretagne, annonçant son départ quelques jours seulement après avoir remporté 3 médailles pour l'Australie au JO de Paris. Aud Sackling a déclaré qu'elle étudiait si une clause de non-concurrence de 2 ans pourrait être appliquée à Richardson. On passe au foot avec la Ligue des Champions, barrage aller. Mardi, Lille s'est imposé contre Slavia Prague, 2-0. Victor Moria pour RFI.
Lille s'est logiquement imposé face au Slavia Prague 2-0 en barrage aller. C'était hier soir au stade du Hainaut de Valenciennes et prend une sérieuse option pour la phase de groupe. Jonathan David a mis le LOSC sur la voie royale à la 52e avant qu'Edon Zegrova mette son équipe à l'abri à la conclusion d'une belle action collective. C'était un petit quart d'heure avant la fin du match. Une belle option prise par les nordistes à 1 semaine du match retour. Un match complet qu'il faudra reproduire en République tchèque, prévient le capitaine lillois Benjamin André.
Un bel avantage, même si je pense qu'on aurait pu, faire un petit peu mieux. On a eu les occasions pour avoir un score plus large. Alors, on va pas faire la fine bouche. C'était important de gagner, d'avoir ces 2 buts, je pense, qui compteront au match retour. Donc voilà, on a fait un match sérieux. Même si les 10 dernières minutes, on a vu que quand on les laissait un peu jouer, ils mettent les longs ballons, les longues touches. Et c'est toujours un peu la bagarre, c'est toujours difficile. Donc voilà, on sait qu'il faudra faire notre match là-bas, ne pas les laisser jouer, prendre le jeu à notre compte et faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce sera très chaud, on le sait, ils vont pousser et voilà, il faut s'attendre à un match vraiment costaud là-bas, mais voilà, aujourd'hui c'est un bon pas, c'est vrai.
Et dans les autres matchs, le Dynamo Zagreb s'est imposé contre Karabakh FC 3-0. Bodo Glimt a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 2-1. Et hier, les Young Boys de Berne se sont imposés contre Galatasaray 3-2. FC Midtjylland a fait un match nul contre le Bratislava. Et puis le Sparta Prague s'est imposé contre Malmö 2-0. Victoire de Salzbourg contre le Dynamo Kiev 2-0. Et ce soir, Lens jouera contre Panathinaikos. Le gardien de but et ancien capitaine de la sélection allemande, Manuel Neuer, champion du monde en 2014, se retire. Les explications de Sadio Diouf pour RFI.
124 sélections et une Coupe du Monde dans l'armoire. C'est par la grande porte que Manuel Neuer quitte l'équipe nationale. Le natif de Gelsenkirchen s'est distingué tout au long de sa carrière sous le maillot allemand par son jeu au pied impeccable, dégageant une assurance hors du commun. Son histoire avec la Nationalmannschaft commence à Dubaï contre les Émirats Arabes Unis lors d'un match amical. Son moment de gloire arrive en 2014 au Brésil. On se rappelle tous de ses arrêts de classe mondiale face à l'Algérie et surtout de ce chiffre spectaculaire, 19 ballons touchés en dehors de la surface. Ses performances dans ce tournoi ont largement contribué à la victoire finale. S'en est suivi plusieurs désillusions, une demi-finale à l'Euro 2016, un quart de finale à l'Euro 2021, mais surtout deux éliminations précoces en phase de poule lors des deux dernières Coupes du Monde 2018 et 2022. Et c'est justement au Qatar qu'il s'est illustré hors du terrain avec sa volonté de porter un brassard en soutien à la communauté LGBT, démarche refusée à l'époque par la FIFA. Marc-André Ter Stegen lui succédera dans les cage allemande, le joueur du FC Barcelone attendait ce moment avec impatience.
Kylian Mbappé a saisi les instances juridiques de la Ligue de foot professionnelle et de l'UEFA. Il réclame 55 millions d'euros de salaire non versés par le Paris Saint-Germain. Les explications de Nicolas Feldman pour RFI.
Le champion du monde 2018 réclame à son ancien club ses trois derniers mois de salaire ainsi qu'une partie de ses primes, 55 millions d'euros bruts au total que le PSG ne lui aurait pas versé. Après une mise en demeure adressée à la mi-juin aux dirigeants du PSG, Kylian Mbappé passe à la vitesse supérieure. D'après le journal Le Monde, le 8 août, l'attaquant signale les faits à la commission juridique de la LFP. Ses conseils invoquent l'article 259 de la charte du football professionnel qui stipule que les salaires doivent être versés par les clubs aux joueurs au plus tard le dernier jour de chaque mois. L'UEFA, elle aussi, a été alertée via un courrier adressé à la Fédération Française de Football. L'annonce l'été dernier de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat au PSG et donc de quitter le club libre sans indemnité de transfert avait jeté un froid entre les dirigeants et le Français. Sans solution, le contentieux pourrait être porté devant les tribunaux. Le camp Mbappé se réserve le droit de saisir les prud'hommes et de réclamer un dédommagement pour harcèlement moral.
Tennis, Yannick Sinner, contrôlé positif en mars dernier, avec les précisions de Victor Missistrano pour RFI.
Sinner a été innocenté par le tribunal indépendant après avoir plaidé la contamination. Alors on a appris l'existence de cette affaire hier. Ces contrôles remontent au mois de mars en marge du tournoi d'Indian Wells. Deux contrôles positifs au Clostebol, un stéroïde anabolisant dérivé de la testostérone. À l'issue de l'enquête, ce tribunal indépendant a conclu que le joueur n'avait commis aucune faute ou négligence, mais cette absence de sanction fait réagir de nombreux joueurs. Ridicule, que ce soit accidentel ou pas, tu devrais être suspendu pendant 2 ans, ta performance a été améliorée. Voilà comment l'Australien Nick Kyrgios a apostrophé Yannick Sinner sur les réseaux sociaux.
Voilà messieurs, dames, pour le journal des sports de ce jeudi.
Et c'était Mogolo, une chanson de Amadou et Mariam, deux artistes aveugles qui nous viennent du Mali. Nous allons à présent marquer une pause et après la pause, on retrouve Nicolas Perpich au micro de Jean-Noël Ducasse pour nous présenter l'actualité économique en Australie. Il sera notamment question du prix du fer. Assurez-vous d'obtenir une vue d'ensemble complète, pas seulement ce que votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux vous offre. Retrouvez toutes nos actualités et histoires sur le site SBS Language. Enregistrez notre site sbs.com.au/language dans les favoris de votre navigateur dès aujourd'hui.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
On retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour Jean-Noël.
La chute du prix du minerai de fer pourrait coûter 3 milliards de dollars en revenus pour le gouvernement fédéral.
Oui, voilà, tout à fait Jean-Noël. On voit que ça pourrait alors approfondir le déficit budgétaire cette année financière. Et c'est parce que vraiment l'immobilier chinois est en pleine chute. Donc il y a beaucoup moins de demandes pour le minerai de fer australien. Et on a vu le prix qui a baissé de 143 dollars la tonne au début de l'année jusqu'à 80 dollars la tonne en ce moment. Et donc c'est beaucoup moins que la trésorerie australienne avait anticipé. Et ils disent que si ça tombe à 60 dollars la tonne avant la fin du mois prochain, et ben là, on va perdre 3 milliards de dollars en impôts. Et déjà, c'est prévu qu'il y aura un déficit de 28 milliards de dollars ici en Australie pour l'année financière de 2024-25. Ça, c'est suite à des surplus les deux dernières années. Et donc, on voit que le trésorier Jim Chalmers, il a dit que ça nous rappelle qu'on n'est vraiment pas immune de la volatilité du marché global.
Et puis la bonne nouvelle pour les fans de Booktopia, la compagnie de commande des livres.
Oui, il y a des centaines de gens qui ont eu une assez mauvaise surprise en juillet quand on a entendu que Booktopia et une compagnie assez connue s'était effondrée. Booktopia avait des dettes d'à peu près 60 millions de dollars et donc les administrateurs avaient pris contrôle de cette compagnie. La plupart des dettes c'était envers les éditeurs, mais il y avait quand même à peu près 15 millions de dollars qui étaient des dettes envers les clients, des gens qui avaient commandé des livres qui sont jamais venus. Mais là, il y a les administrateurs qui ont confirmé qu'ils ont trouvé quelqu'un pour acheter le business. Donc, c'est une compagnie qui s'appelle DigiDirect. Ils ont toute une série de magasins qui vendent des produits électroniques. Et Booktopia, donc, va pouvoir être restructuré. C'est sûr qu'il y aura des gens licenciés, malheureusement. Mais selon les administrateurs, ils vont pouvoir recommencer à faire du business tout de suite. Apparemment, par contre, le prix que DigiDirect a payé pour Booktopia était loin des 60 millions de dettes de la compagnie. Donc, c'est très peu probable que les éditeurs et les clients vont recevoir grand-chose, malheureusement.
Merci, Nicolas. À bientôt.
Merci, Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était Perdre la tête, une chanson de Izé. Nous allons marquer une pause et après la pause, Jean-Noël Ducasse va nous présenter. Donc, il sera en conversation avec Martine Perret, une photographe française basée à Perth, pour nous parler de The Great Australian Walks, une série télé qui débute ce soir dans sa deuxième saison sur SBS Télé.
Look at this! I'm sharing the thrill of walking across this vast country with some friends.
Julia's joined by Gina Chick.
I'm absolutely loving the bird's eye view.
And Susie Youssef.
This place is so beautiful.
For more great walks across more of Australia.
And I really get a sense that I'm on top of the world.
There's no one here. Just how I like it.
Great Australian Walks. Stream free on SBS On Demand.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Martine Perret à nouveau sur SBS en français. Bonjour et bienvenue à vous.
Oui, bonjour Jean-Noël et à tous les auditeurs.
Martine, on se parle aujourd'hui dans le cadre de la série Great Australian Walks Season 2. C'est avec Julia Zemiro et vous serez présente sur les écrans dans le tout premier épisode qui sera diffusé à la télévision SBS le 22 août. Alors, peut-être parler de cette rencontre avec Julia Zemiro. C'est la première fois que vous vous êtes rencontrés?
Absolument. C'est la première fois que je rencontre Julia Zemiro. Donc Julia, c'est vraiment comme tous les auditeurs savent, c'est une icône de la télévision australienne. C'est une femme extraordinaire qui est donc très professionnelle et qui a surtout le don de vous mettre vraiment bien à l'aise. Et on avait, quand je l'ai rencontrée, on a vraiment l'impression d'être pratiquement les meilleures amies du monde. Ça a été un vrai plaisir de la rencontrer. Et ça, c'était en mars dernier. Et franchement, je ne la connaissais pas, mais je trouve que c'est une personne extraordinaire. Donc vraiment, j'espère que les auditeurs apprécieront l'épisode de Great Australian Walk à Margaret River, qui est évidemment une région sublime. Et donc, je suis très heureuse, en fait, d'en faire partie.
Que pouvez-vous nous dire sur ce village ? On imagine que c'est tranquille en hiver, mais très bruyant en été.
Margaret River devient quand même de plus en plus prisée, je dirais, par beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'en été, il y a beaucoup plus de monde qu'en hiver. Là, en ce moment, on est en pleine giboulée de mars. Donc, effectivement... je ne vais pas autant à la plage qu'en été, mais la région est quand même tellement extraordinaire. Il y a beaucoup de plages où même s'il y a beaucoup de monde dans la région, parfois vous vous retrouvez avec 10 personnes sur une plage. Donc ça reste quand même une région qui fascine parce que justement il y a des kilomètres et des kilomètres de plages et donc le fameux Cape to Cape où on peut finalement disparaître en été et ne voir personne. Donc c'est ça aussi qui est magnifique en Australie occidentale en fait et surtout dans cette région.
Et qu'est-ce qui vous a emmené à choisir Margaret River pour y vivre?
Effectivement. En fait, il y a 10 ans de ça, pratiquement, il y a 12 ans en fait, j'ai terminé, on va dire, ma carrière aux Nations Unies. J'étais photographe dans les opérations de maintien de la paix et l'une de mes dernières grandes missions était au Sud-Soudan. Et mon mari était à l'époque à Perth et du coup, je suis revenue sur la ville de Perth, qui est quand même une ville que j'aime beaucoup. Par contre, j'avais vraiment envie de vivre finalement dans un endroit plus calme qu'une grande ville. Après avoir passé des années, si vous voulez, sur le terrain dans des endroits assez compliqués, on va dire, au Congo et au Timor oriental. Finalement, j'avais un petit peu envie de plus de calme, mais quand même un endroit intéressant au niveau artistique. Et c'est vrai que dans la région de Margaret River, il y a beaucoup d'artistes aussi, de musiciens, même de peintres, de sculpteurs, même de photographes. Et je me disais que ça serait vraiment super de vivre dans un endroit plus petit. On n'a même pas de feu de circulation, c'est pour dire. Mais en même temps, donc c'est un endroit finalement, quand je sors de la maison, à 5 minutes de chez moi, j'ai des parcs nationaux, j'ai beaucoup d'espace, des arbres, la mer. Donc c'est vraiment une région extraordinaire et c'est ça qui m'a en fait attirée.
Et le parc le plus connu, c'est Boranup State Forest?
Voilà, il y a le Boranup State Forest et puis finalement le Cape to Cape où on peut marcher. C'est une longue marche randonnée de à peu près 135 kilomètres du phare qui se trouve au nord, le naturaliste, et puis jusqu'au phare qui se trouve à Augusta. Et cette longue randonnée passe par des plages, des falaises, des forêts. Moi, je conseille vivement aux auditeurs de venir en Australie occidentale, mais aussi de descendre justement sur la région Margaret River. Si vous aimez marcher, c'est vraiment un endroit sublime. Et par exemple, quand on va arriver bientôt en saison au printemps, il y a une explosion florale qui est assez extraordinaire aussi. Et vraiment, c'est magnifique.
Et donc, il y a cette marche qu'a faite Julia Zemiro. C'est une marche de 12 kilomètres, d'après ce que je comprends, de Margaret River à Redgate Beach.
Et en fait, je l'ai rencontrée jusqu'à Contos. Donc en fait, la marche a commencé effectivement à Margaret River, puis elle est passée par la plage de Redgate, qui est une plage qui est assez connue, enfin pour diverses raisons historiques et pour les surfeurs aussi. Et quand vous continuez cette marche donc en direction du sud, vous arrivez à Contos, la plage de Contos. Mais je l'ai rencontrée sur les falaises. de Contos, qui est un endroit que j'adore en fait, parce qu'on surplombe effectivement la plage de Contos et on peut aussi y aboutir par un autre petit chemin où j'emmène souvent finalement des amis et la famille quand ils viennent dans la région. Il y a effectivement un banc où on peut s'asseoir au-dessus des falaises et qui est un endroit franchement magnifique et extraordinaire. Et c'est là où j'ai en fait rencontré Julia. On s'est assises et avons discuté pendant l'épisode. C'est le premier épisode effectivement et j'espère que encore une fois ça va donner aux auditeurs l'envie de venir dans cette région, parce que la plage de Contos elle est sublime, vue du ciel mais aussi vue d'en bas. Puisque finalement, quand vous êtes en bas, vous voyez les falaises derrière qui sont magnifiques. Et donc, je conseille vivement aux auditeurs de, si vous n'avez pas l'occasion de faire la marche, si vous voulez, des 135 kilomètres, parce que ça peut prendre jusqu'à une semaine, vous pouvez faire finalement des tronçons. Et le Red Gate Contos, c'est vraiment un beau tronçon en fait à faire, qui ne dure pas finalement trop longtemps, mais qui permet de voir une diversité de paysages. Donc c'est ça qui est aussi bien, c'est que vous pouvez effectivement faire des marches, vous voyez, de 6, 10, 12, 20 kilomètres. Ça dépend en fait de votre envie, évidemment.
Et aussi admirer les arbres de la région, les caries, les maries.
Voilà, les caries et les maries de la région qui sont magnifiques, effectivement, dans la forêt de Boranup. Donc vous pouvez, il y a une façon d'y arriver évidemment par la Caves Road, donc la route des grottes, ce qu'on appelle la Caves Road. Donc vous pouvez effectivement passer finalement devant cette forêt de Boranup, mais évidemment vous y aventurez à l'intérieur aussi, et ils sont énormes et géants et ils poussent tout droit, donc ils sont vraiment magnifiques ces arbres, surtout les caries en fait. Et donc ça aussi c'est un point fort de la région, ça permet, c'est vrai que cette région, ce qui est extraordinaire c'est qu'on a un petit peu de tout, parce que si vous allez au nord, là où il y a le phare naturaliste, cette péninsule est quelque part, il y a beaucoup plus de grass tree, en fait je ne connais même pas le mot en français, mais les balgas, ce qu'on appelle aussi les balgas, donc qui ne poussent pas finalement très haut. Et par contre, quand vous allez plus vers le sud, c'est vrai que là, les arbres deviennent de plus en plus grands et plus nombreux. Donc, il y a vraiment une belle diversité. Et puis, évidemment, il y a les vignobles. On a une centaine de vignobles dans la région aussi dispersés. Donc, ça vraiment, ça permet aux visiteurs finalement de faire des vacances extraordinaires dans cette région. Donc je suis vraiment contente que le Great Australian Walk, qui est finalement une série, c'est la deuxième partie, puisque la première partie était à l'est. Oui. Et dans cette deuxième partie, c'est vrai qu'on a des randonnées donc dans la région de Margaret River et puis autour de Fremantle et Rottnest, mais ils ont aussi inclus par exemple Uluru, la Tasmanie, la Nouvelle-Galles du Sud, donc c'est et puis l'Australie du Sud aussi. Donc ça va permettre vraiment aux éditeurs d'avoir cette vision de l'Australie grâce à Julia, mais pas que Julia cette fois-ci, puisqu'il y a deux autres présentatrices, Gina Chick, oui, qui était la gagnante de Alone Australia, et la comédienne Susie Youssef aussi. Donc ça va être vraiment intéressant de voir aussi d'autres perspectives.
Martine Perret, toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes de Radio SBS et à la prochaine.
Merci beaucoup et à tout bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
Same old place, sweet home, Chicago. Sweet Home Chicago, ici dans sa version des Blues Brothers, l'évidence même pour entamer notre virée du jour à Chicago.
Baby, don't you want to go? Évidemment que tout le monde veut aller à Chicago, à commencer par les démocrates pour la convention qui va lancer la dernière longue ligne droite avant l'élection de novembre.
Mais attendez, ce n'est pas une chanson de campagne comme on l'a évoqué le mois dernier.
Ah, pas du tout, mais c'est devenu une sorte d'hymne officieux de Chicago en général et du Chicago Blues en particulier. En réalité, la version originale remonte au milieu des années 30 et elle est l'œuvre du légendaire Robert Johnson.
Car Chicago est une ville rêvée par les bluesmen comme lui.
Bah, plus généralement par les noirs du vieux sud rural coincés dans un système de métayage qui les endette toujours plus. Si on ajoute à ça des mauvaises récoltes, la mécanisation de l'agriculture et une ségrégation omniprésente, bah, pas étonnant que les noirs aient la bougeotte.
Mais alors pourquoi Chicago? Sûrement pas pour le climat en tout cas.
Ah non, en effet, les hivers sont plutôt frisqués, hein, mais la ville a une aura très particulière. D'abord parce qu'elle est la promesse d'emploi mieux rémunérée dans l'industrie et les services, mais aussi grâce à un journal, le Chicago Defender, tenu par des Noirs et distribué aussi dans le Sud. Et puis, il y a les catalogues des magasins Sears Roebuck, où on peut commander des articles introuvables dans les boutiques du Sud. Donc, c'est un horizon de modernité, d'indépendance et d'abondance pour les Noirs du Delta. Well, if you dance on a Saturday night, I'll hold a loom where I can hold a time. But she lives on the 20th floor town. The elevators are broken down.
20 Flight Rock par Eddie Cochrane en 1956, le rock du 20e étage. Mais qu'est-ce qu'on y trouve donc à ce 20e étage?
La chair est tendre du narrateur, mais voilà, l'ascenseur est en panne.
Aïe, donc 20 étages à pied, vivement qu'il soit réparé. Well, they sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. Et comme vous l'avez peut-être entendu, l'ascenseur a été envoyé à Chicago pour être réparé.
Mais pourquoi donc?
Parce que c'est le siège de la société Otis, le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants. À la fin du 19e siècle, New York et Chicago se tirent la bourre pour construire des immeubles toujours plus hauts. Grâce à l'acier, on peut empiler bien plus d'étages qu'avant, mais problème, à partir d'une certaine hauteur,
l'ascenseur s'impose, d'où le siège à Chicago et pas ailleurs. Pourtant, Chicago n'est pas une ville aussi ancienne que New York.
Alors Chicago, c'est une ville champignon. Elle est fondée en 1833 au bord du lac Michigan. Et on parle à l'époque de quelques cabanes. En 1871, un grand incendie ravage une ville qui avait déjà bien grandi et qui se reconstruit de plus belle pour devenir la deuxième ville du pays derrière New York. Ce qui explique aussi pourquoi elle attire les Noirs du Sud. C'est plus qu'une ville, c'est une promesse, la promesse d'une vie meilleure. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Graham Nash chante aussi Chicago ici en 1971. Qui appelle-t-il à venir chanter à Chicago? Ses compères Crosby, Stills et Young pour faire libérer les Chicago 8, emprisonnés après les débordements de la convention démocrate d'août 1968 à Chicago précisément.
Une convention marquée par quelques tensions.
C'est le moins qu'on puisse dire. L'atmosphère est électrique dans la ville autant qu'au sein des démocrates réunis et ça tourne carrément au pugilat.
Le contexte de guerre du Vietnam n'aide sûrement pas.
Non seulement la guerre du Vietnam, mais les assassinats politiques. Martin Luther King en avril, Bobby Kennedy à qui l'investiture démocrate était promise début juin, les esprits s'échauffent, la police réprime et la foule scande The whole world is watching, le monde entier nous regarde, et ce sont en fait les illusions des 60s qui s'effondrent en direct.
Des illusions qui s'effondrent et pourtant Graham Nash chante, je le cite, que nous pouvons changer le monde.
En théorie peut-être, mais c'est assez naïf et l'électorat, la majorité silencieuse, aspire à remettre de l'ordre dans une Amérique qui semble partir à volo. Et c'est le républicain Richard Nixon qui l'emporte en novembre 1968 et qui sera réélu triomphalement 4 ans plus tard.
Avant d'être balayé par le scandale du Watergate qui nous fait oublier ses victoires électorales, alors Loric, mauvais souvenir pour les démocrates cette convention à Chicago, alors que l'on sait que plusieurs organisations pro-palestiniennes ont prévu de manifester.
Mauvais souvenir, c'est sûr, surtout en cas de trouble, mais c'est aussi le fief d'un certain Barack Obama, histoire de conjurer le mauvais sort.
On va suivre tout ça de près, bien sûr, et on se retrouve vendredi prochain pour parler de quoi cette fois?
De catastrophes naturelles, mais toujours en musique.
À vendredi alors, Laurie Kenton.
À vendredi, Julien.
Regulations who need them. Open up the
Et c'était Vers les îles, une chanson de Johnny Montreuil. À présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi après-midi. L'Australie va fabriquer des missiles avec l'ouverture d'une usine d'armement à Newcastle. Et en France, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal propose de geler le budget pour 2025 et se positionne pour la présidence du parti présidentiel. Et l'Union européenne veut augmenter ses taxes sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Et nous arrivons tout doucement à la fin de cette édition de ce jeudi 22 août 2024. Merci de nous avoir suivis ce jeudi après-midi. Prochain rendez-vous avec le programme en français, ce sera samedi à la même heure. Je vous laisse en compagnie de Laurent Barden et Tigre d'eau douce dans Globule.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.